Bonjour à tout le monde et bienvenue sur une nouvelle émission de Salió el Sol, la musique latine expliquée aux Liégeois. Je suis Sarah Echeverry et aujourd'hui c'est une émission assez spéciale parce que c'est la première fois qu'on essaye de faire un direct après...
Qu'on essaye,
oui. Du coup, on a Félicien qui nous aide beaucoup avec la partie technique.
Coucou. Bien, bonjour.
Et on a Laurine qui est là pour nous aider avec les interviews.
Bonjour.
Et une invitée super spéciale, c'est une artiste, compositrice, musicienne liégeoise, la Nena. Salut Nena.
Hola, Sarah. Hola. Je ne savais pas si je devais parler en français ou... Mais j'y vais en français, ça va.
Oui, on y va en français. Qui nous accompagne avec son guitariste, Amrou.
Salut, ça va.
Salut, Mohamed. Mo.
Oui, Mo, c'est très bien.
Mo, c'est très bien, on va t'appeler Mo. Et du coup, on est là avec Nena qui vient nous faire sa release party le 23 mars. Comment ça s'est passé?
Ben, on retombe seulement un petit peu là. Ça fait quoi, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. C'était incroyable. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais pas vous, vous étiez là, mais c'était l'accouchement de 10 mois de travail, et donc intense. Et ça s'est super bien passé, je trouve. En tout cas, moi, je l'ai super bien vécu. Et là, je me suis pris un peu de vacances, j'avoue. Oui. Mais il y a la promo de l'EP à faire, mais voilà. Artistes liégeois, on n'a pas non plus des grosses équipes derrière nous, donc voilà, on fait ce qu'on peut.
Oui. Bah, écoute, on vient de me confirmer qu'on nous écoute en Colombie.
Hola Colombia.
Tenemos a toda mi familia que está escuchando tu voz.
Pues qué alegría, qué alegría. Saludos a toda Colombia y bueno, espero que un día, ojalá, podremos venir y tocar en Colombia.
Eso espero yo también.
Con mucha alegría, me gustaría mucho.
Sí, a mí también. Sí, yo también puedo ir.
Te vienes con nosotros, ¿no?
Sí, vamos, utilista. Y bueno, continuamos en francés. C'était juste un petit coucou pour la Colombie qui nous écoute en live. Et il paraît que ça marche. On est enfin en live après 15 minutes de problèmes.
Incroyable d'être écouté en Colombie, ouais. Pour moi. Ah ouais, ça me fait trop plaisir.
Écoute, on est très contents aussi. Je l'ai fait écouter d'habitude, mais comme c'est pas en live, je ne sais pas si on nous écoute toujours. Mais là, maintenant, pour le coup, on est là. Et alors, on parlait de ton accouchement.
Oui, c'est vraiment ça. C'est presque ça.
Ouais. Ouais,
ça couve. C'est une gestation, quoi. Oui. En plus, ça a duré quoi, 10 mois? 8 mois, non? Même pas. 8 mois, 8, 9 mois.
Oui,
on peut vraiment dire que c'est un accouchement, surtout qu'à un moment donné, on n'en peut plus du studio.
Oui.
Écouter en boucle ses chansons et tout ça. Il y a vraiment besoin, à un moment donné, de passer les chansons au public, quoi.
Oui.
Parce que moi, je ne peux plus les entendre.
C'est ça. La différence avec le public, alors, on parle de ça? C'était quoi la sensation?
Ben déjà c'était incroyable parce que c'était rempli et comme j'ai autoproduit toute la release toute seule comme une grande, ça il y avait au-delà de la musique l'aspect musical que je devais gérer, il y avait l'aspect vraiment organisation d'un événement où je devais faire la com, faire tout et donc il y avait vraiment aussi beaucoup de pression sur mes épaules de et tout le travail qu'il y avait aussi derrière avec les musiciens etc de savoir si ça allait marcher. Et ça a été incroyable. On a eu sold out, 250 personnes. Et c'est vraiment un moment particulier parce que c'est pour moi, c'était la première fois que c'était un public qui venait pour moi. Ouais. J'ai fait des concerts avant, quoi, quand le projet était en construction. Si on m'appelait, j'allais en concert, mais je faisais des petits showcases. Ouais. Et c'était dans des premières parties ou dans le cadre de festivals. Et donc, les gens ne viennent jamais. Ils sont en mode découverte. Ici, il y avait vraiment un public qui était venu pour moi. Et c'était, du coup, une première expérience pour moi.
Ouais, folle. Coup, on parle un peu de l'album en soi.
Ouais.
L'album s'appelle La Raïs.
Ouais.
La Raïs, c'est la racine. Mm-hmm. Et ça parle beaucoup déjà qu'avec son nom. Je te parle des deux artistes qui ont des noms similaires dans leur album chanson. On a Valeria Castro.
Ouais.
Je pense que tu la connais.
Tout à fait.
Et Natalia Lafourcade.
Of course.
Et toutes les deux ont des inspirations similaires.
Ouais.
Alors, Natalia Lafourcade, elle a fait la chanson pour parler de son village.
Ouais. En Veracruz.
Ouais. Ouais, exactement. Et c'est une expression d'amour et de nostalgie pour son village. Et Valeria Castro, La Raïs, c'est une réflexion sur le pardon et l'auto-soin et l'importance de se pardonner soi-même.
Ouais.
Toi, c'est quoi ton inspiration?
Alors, La Raïs, c'est particulier parce que du coup, c'est le nom du projet global. Donc, ça fait écho à plein de refs. Mais le morceau, chez moi, La Raïs, c'est plus du coup la version qui se rapproche plus de Valeria Castro et en même temps Natalia Lafourcade. Parce que pour moi, c'était quand je l'ai écrite, j'ai beaucoup pensé à ma famille quand je l'ai écrite. Mais il y a vraiment une sorte, si on écoute le texte, une sorte de besoin de s'éloigner de cette raïs pour mieux y revenir. Quoi.
Ouais.
Et donc pour moi, en fait, plus le temps passe, c'est marrant parce que des fois, on écrit des choses très rapidement. Et puis après, en les chantant, moi, il y a des interprétations que je refais de mes chansons qui n'étaient pas les intentions premières. Quoi. Et là, j'y vois plus la raïs, c'est « siempre busca la raïs », donc « cherche toujours la raïs », c'est plutôt... le droit qu'on doit se donner à soi-même de chercher, de se contredire. Et la raïs, c'est plutôt soi-même, quoi, en fait, pour moi. Et donc, on a plein de choses qui nous sont imposées, que ce soit par la famille, que ce soit par la société, tout ce qui est normé, on va dire. Et c'est, la raïs, pour moi, c'est le droit de se donner la liberté d'aller voir ailleurs.
Et revenir.
Et sa raïs, c'est finalement, c'est sa voix en soi qui dit c'est quoi le chemin à suivre. C'est pas la raïs, revenir en mode, il faut revenir au passé, c'est pas du tout ça. C'est
oui,
revenir à soi-même.
Oui, retrouver, c'est d'où on vient, en fait.
Exactement.
Je l'interprète aussi quand j'écoute tes paroles.
Et il y a beaucoup dans les paroles, c'est... « Aunque te alejes de ti, aunque te alejes de mi ». Donc, prends ce... Donc, si je peux traduire, du coup, c'est « Même si tu t'éloignes de toi... » Parce qu'il y a des fois, dans le trajet, tu as l'impression même de t'éloigner de toi-même. Mais c'est normal. Ça fait partie du processus pour mieux se trouver. Quoi. Il faut pouvoir, à un moment donné, mettre de la distance d'où on vient.
Oui.
Et finalement, quand je dis on recherche finalement cette racine, bah, c'est soi, pour moi. C'est
Alors,
comme ça que je le vois.
Tu dirais qu'il y a des émotions différentes lors de la création de la chanson et quand tu chantes après avec un public ou toute seule?
Ah ben même, en fait, quand je réécoute mes textes, il y avait une intention première, ou pas, des fois ça sort comme ça. Et par exemple, Canto a la Luna, c'est marrant, c'est celle qui m'a le plus interpellée, parce que quand je la réécoute, donc c'est un chant à la lune, c'était pour moi une histoire de deuil, d'amour, pas forcément d'un couple amoureux, ça peut être un deuil, peu importe quoi, amour universel. Et maintenant, quand je vois la violence qu'il y a des fois aussi dans cette chanson, j'y vois même un féminicide, quoi. Donc du féminisme aussi, mais c'est pas quelque chose qui était intentionnel de ma part au départ dans l'écriture. Mais alors du coup, je deviens un peu publique de moi-même à un moment donné, parce que les chansons sont enregistrées, je les écoute parce qu'on doit les écouter beaucoup pour les enregistrer, pour les produire. Et des fois, bah oui, il y a des interprétations que je fais comme si j'étais à votre place.
Donc, est-ce que ces interprétations nouvelles font changer la manière aussi de la jouer?
Ouais, à fond, à fond. Et donc c'est ça qui est beau, je trouve aussi, c'est que il y a pas de d'interprétation figée dans une chanson, quoi. Surtout quand on est écrit de manière assez ouverte, c'est pas. Je pense que c'est en tout cas mon intention quand j'écris, c'est que j'essaye de pas trop fermer le message. J'essaye d'écrire avec des mots qui puissent être après. C'est à vous de d'ailleurs voir comment toi tu l'interprètes aussi, tu vois ces chansons, toi qui, parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler avec des gens qui comprennent l'espagnol ici à Liège. Donc,
pourtant, on est beaucoup.
Oui.
Mais en même temps, on n'est pas beaucoup.
Non, c'est ça. Donc, ma mère, par exemple, elle me dit toujours, elle a sa manière d'interpréter les choses, qui dit toujours, oh, mais niña, qué triste. Tu vois, comme c'est triste que tu écris, alors que moi je ne trouve pas, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, moi, je trouve qu'il y a toujours un message d'espoir dans mes chansons. Mais elle le voit, mais voilà, c'est point de vue, encore une fois, c'est un point de vue.
C'est un point de vue, c'est une autre génération aussi. Alors, chaque personne va l'interpréter différemment.
Ouais.
C'est comme ça. Et alors, avec Mo, ça fait longtemps de cette histoire?
Laquelle? La musicale ou l'amoureuse?
Les deux. Est-ce que ça va de la main?
Je te laisse répondre.
On n'a pas commencé à faire de la musique ensemble. On s'est d'abord rencontrés, on a fait notre petit parcours amoureux. Et c'est seulement après, peut-être même plus d'un an de couple qu'on s'est mis à faire de la musique ensemble, en fait, parce qu'elle avait son projet de son côté, moi j'avais un projet aussi de mon côté, et puis en fait petit à petit pendant tout un moment elle a délaissé un peu la musique, et puis j'ai essayé, elle voulait reprendre la musique mais elle savait pas trop comment s'y prendre, elle était un peu en déphasage, on va dire, et puis finalement je l'ai un peu poussé, je pense que je l'ai aidé à se remettre un peu là-dedans, et vu qu'elle avait plein de compos de base, qu'elle avait plein de choses à raconter en plus, ça a été assez naturel. Après on s'est remis à faire de la musique ensemble, c'était un peu un médicament au début, puis plus à petit ça s'est lancé comme ça.
Ouais, Mais ça n'a pas été genre. C'est pas parce qu'on est en couple avec un musicien qu'on fait de la musique.
C'est pas du tout une évidence. On sait pas. Enfin, c'est pas le truc un peu utopique qu'on imagine. Le couple qui fait la musique ensemble.
Après, ça déjà devient
écrit.
Chouette.
Ouais, après, ça devient chouette.
Parce que.
Mais ça pas, c'est pas écrit comme ça à la base.
Surtout qu'on vient pas des mêmes milieux musicaux, quoi. Des mêmes références.
Ouais. Ouais, bah
tu faisais plutôt quoi comme musique avant?
Moi, je viens plutôt du jazz, soul, rock, R&B, un peu tous ces styles-là. Et
toujours la guitare.
Hein. Ouais, je joue beaucoup la guitare. Je touche d'autres instruments aussi, mais principalement la guitare. Et puis aussi dans des milieux urbains aussi, je joue beaucoup avec des rappeurs, des trucs comme ça. Et du coup, là, je me suis retrouvé à faire de la guitare, un autre style de musique pour moi, que j'avais pas encore vraiment beaucoup expérimenté. Et puis je me suis mis au flamenco maintenant.
Bah, oui, j'allais te dire. Toujours la guitare espagnole comme un espagnol.
C'est bah, nouveau pourtant pour lui.
C'est un beau compliment pour moi.
Il est tellement fort que ça fait pas si longtemps que ça qu'il s'est mis. Donc on peut pas. Alors le flamenco, c'est vraiment intouchable. Moi, je me dis même pas qu'il y a des influences loin flamenco, quoi. Parce que c'est vraiment tellement un domaine, tellement de maîtres.
Je ne me présente pas comme un guitariste flamenco, ça, c'est sûr et certain. C'est tellement une école, c'est un truc que les gens ils le vivent depuis qu'ils sont gamins pour pouvoir vraiment jouer ce style-là de manière traditionnelle, etc.
Ouais.
Mais par contre, j'adore expérimenter et m'imprégner de ce style-là pour l'emmener dans l'univers de Nena. Donc ça, c'est vraiment...
C'est exactement ça.
Et si on fait celle de la musique alors?
C'est parti.
On va faire quoi?
On va faire la raïs, puisqu'on en parle, non?
Ben oui.
Allez, avec plaisir. Vamos. T'es prêt?
Je suis prêt.
Últimamente me fijo, canto a contratiempo. Pero la llama me llama, pero la llama me espera. Y si una se olvida, y si una se pierde, la puerta siempre abierta y el camino que nos une de frente. La puerta siempre abierta y el camino que nos une de frente. Aunque te alejes de mí, aunque te alejes de ellos, siempre busca la raíz, siempre busca la raíz. Últimamente me fijo de una voz a lo lejos que me aleja de ti, que me aleja de mí. Cambio, si mañana me pierdo, a veces no distingo, sabes bien lo negro del blanco. A veces no distingo, sabes bien lo negro del blanco. Aunque te alejes de ti, aunque te alejes de mí, aunque te alejes de ellos. Siempre busca la raíz, siempre busca la raíz. Aunque te alejes de ti, aunque te alejes de mí, aunque te alejes de ellos. Siempre busca la raíz, siempre busca la raíz. busca la raíz, siempre busca la raíz. Aunque te alejes de ti, aunque te alejes de mí, aunque te alejes de ellos, siempre busca la raíz, siempre busca la raíz, siempre busca la raíz, siempre busca la raíz.
Et bon, on écoute La Nena, pour ce qui vient d'arriver. C'est une artiste liégeoise qui nous fait de la musique en espagnol, parce qu'elle a des origines espagnoles. C'est ton grand-père qui est venu d'Espagne, ou ta grand-mère?
Les deux. C'est juste qu'à cette époque-là, c'est pas comme l'immigration d'aujourd'hui, où ils ferment les portes. À cette époque-là, il y avait des accords pour que les Espagnols puissent venir travailler. Et donc, c'est plutôt l'homme... Ouais. Forcément, dans les années 60, qui venait travailler. Et une fois qu'il avait son permis de travail et qu'il avait un travail établi, alors il pouvait faire venir femmes et enfants. Quoi.
Dans les années 60, alors c'était un peu après l'exode des Espagnols ou pendant?
En fait, il y a plein de générations d'immigration espagnole, parce qu'il y a eu la guerre civile dans les années 30 et encore avant, il y a Los Niños de la Guerra. Qui ont été, il y a plein de choses. Nous, on est la quatrième, je pense, vague d'immigration. Ouais. Troisième, si je me trompe. Je sais plus. J'ai étudié ça quand j'étais à l'UNIF, mais quatrième, et c'était raison économique et politique, quoi, la nôtre. Et il y a eu même une vague en 2008 d'espagnoles aussi, une vague plus contemporaine par rapport à la crise des subprimes, etc., et du bordel qu'il y a eu en Espagne. Donc l'immigration, de toute façon, on ne sait pas l'arrêter.
Mais de toute façon, ça passe tout le temps.
Exact.
C'est un peu la même chose en Colombie, mais à partir des années 80. Ça a commencé et ça continue.
Ouais.
Et alors, lors de cette racine espagnole, tu as grandi dans une famille complètement espagnole?
100%.
Alors, tu parlais français à l'école et espagnol à la maison?
Exact. Et quand même un peu français, parce que mes parents, ils sont arrivés très jeunes. Et donc, quoique, je ne sais pas en fait. J'avais l'impression de parler français avec mes parents et espagnol beaucoup avec mes grands-parents. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes grands-parents, on vivait en tribu. Nous, en tant qu'Espagnols, moi j'ai vraiment vécu l'aspect famille où on se lâche pas, quoi. Toutes les générations, moi j'ai toute mon enfance, je la passais pas avec mes parents. Ouais. Les modèles familiaux, ils ont quand même vachement changé. Et nous, Espagnoles, latins, on vivait pas séparés, quoi. Ouais. J'ai eu l'impression d'avoir vécu toute ma vie en tribu avec eux. Et c'était la maison mitoyenne, mes grands-parents. Donc moi, j'étais H24 avec eux. Et par chance, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus l'espagnol que si j'avais été qu'avec mes parents, qui, eux, étaient quand même dans la société belge et qu'ils avaient pris le pli. De toute façon, eux, ils parlaient français entre eux, quoi.
Oui. Je peux te demander qui est Teodora?
Teodora, c'est mi abuela. C'est un peu... c'est celle qui nous a quittés le plus vite et c'est celle avec qui j'avais la plus grande connexion, je pense... très forte, c'est avec elle que j'ai commencé à chanter quand j'étais petite.
C'est pour ça qu'elle est dans ton album.
Exact. Et Tela Marinera, c'est un hommage à elle, donc je voulais absolument introduire ce morceau par un extrait d'elle et moi, en fait, quand je suis petite, et voilà, c'était juste une anecdote.
En plus, c'est une expression très espagnole. Tela Marinera, j'ai appris quand j'étais... Mais pourquoi on dit ça? Je ne comprends pas. Tela Marinera, Tela Marinera.
Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire.
C'est un mot, c'est compliqué, c'est très compliqué. Tela Marinera.
Intraduisible. Mais vous aussi, les Colombiens, vous en avez sur
on a
paquet.
Bien, on a beaucoup des expressions, mais Tela Marinera, ça restait dans ma tête aussi. J'ai vécu quelques mois en Salamanca.
Ah ouais? Et tu as l'entendu?
Oui, c'est vrai. Mais les plus vieux disent beaucoup, les anciens disent.
Oui, parce que moi, entre espagnols d'une région à l'autre, parce que du coup, moi, ma famille, elle vient d'Extremadura, donc du sud. Et...
Mais c'est pas très loin des Salamanca. Hein.
Non, c'est vrai. Et c'est pas étonnant, du coup, parce qu'il y a d'autres espagnols qui m'ont dit, mais on connaît pas, nous, cette expression. Mm. Et donc, d'une région à l'autre, on a des cultures différentes aussi, quoi.
Bien sûr. Mais en Salamanca, c'est la région des Castilles.
C'est au-dessus, quoi.
C'est au-dessus, et c'est déjà l'espagnol. Pur,
Ah ben nous pas du coup, parce que moi l'espagnol de ma famille c'est vraiment plus proche des Andalous, du bled.
C'est ça, mais ils disent tous Tela Marinera, ça je te l'assure.
Trop bien.
On parle un peu de l'exploration musicale et les rythmes, parce que dans toutes les chansons on entend des rythmes complètement différents.
Ouais.
On a beaucoup de flamenco, c'est parce que c'est une influence assez importante dans ta vie, mais il y a beaucoup d'instruments différents. Tu nous parles un peu de ça.
Sur vraiment l'album studio du coup, hein, mm-hmm. C'est ça. Oui. Ouais. Donc là du coup, ben là en live, je m'accompagne dans Quattro Venezolano, mais ici sur le studio, il y avait pas. Donc c'est guitare, trompette, contrebasse et c'est tout. Et il y a un peu de percu, qu'on ouais. a mis par après. Mais en fait, cette EP, on l'a fait assez vite et pas vite. Mais comment expliquer ? On est sorti de la première partie de Manu Chao où moi, comme il disait, hein, j'étais un peu dans les doutes, etc. Et en fait, j'avais plein de chansons. Et quand on s'entoure de musiciens professionnels, finalement, les choses deviennent faciles, quoi. Ils nous disent, bah, t'as des chansons, va en studio. Et donc, ça s'est fait de manière très organique, les arrangements, etc. On n'a pas travaillé 10 mois sur ça. On a joué en live, comme ça. Et on s'est dit, on va en studio et on les joue comme ça. Et en termes d'influence, tu parles de flamenco, mais il y a aussi, moi je trouve aussi beaucoup d'Amérique latine.
Oui.
Même si moi j'essaye quand même de me rapprocher toujours le plus possible de ma culture, parce que j'aime pas trop l'appropriation culturelle. Alors même si je suis espagnole, ben
c'est impossible. Voilà. C'est impossible d'éviter l'appropriation culturelle parce que c'est naturel.
Pour moi, j'ai grandi avec les oui. chants et puis moi je me suis construite avec l'Espagne musicalement. Mais très fort avec l'Amérique latine aussi. Ouais. Donc, je ne peux pas faire autrement que quand je compose, ça sorte. Et donc, la raïs, par exemple, elle sonne beaucoup plus sud-américaine qu'espagnole, je trouve. Ouais. Dans les influences musicales, hein, je parle vraiment. Mais ça, il n'y a que les. Peut-être. Je pense que c'est un latin qui peut comprendre la différence ouais, entre c'est la marinera, par exemple, et ouais. la raïs, qui est beaucoup plus sud-américaine dans les rythmiques.
La raïs, c'est plus. Ça me rappelle beaucoup à Natalia Lafourcade.
Ouais, c'est ça.
Et il y a aussi Sylvana Estrada et tous ces genres de musiciens un peu mexicains.
Ouais.
Plus de côté Mexique.
Bah, c'est ce que j'écoute moi. Le plus. Hein. Oui. C'est beaucoup le Mexique. Je dis toujours Chavela Vargas,
ouais.
Salela Furcade.
C'est un peu plus ranchera. Ouais. Mais les nouvelles générations sont plutôt... la tendance un peu plus pop ouais. qui reste avec ses racines.
C'est ça que j'aime bien dans les mexicaine. Artistes d'Amérique du Sud et qu'on retrouve de plus en plus aussi en Espagne. C'est qu'on retourne de plus en plus à ce qu'ils appellent la nueva canción latina, mm-hmm. nouvelle chanson latine. C'est que c'est moderne et à la fois c'est intemporel et on revient de plus en plus à une chanson plus folk, mais finalement avec des thèmes d'aujourd'hui, ou, mais voilà, avec des instrumentations, si je peux dire, oui, c'est instrumentation, ouais. Beaucoup plus acoustique, beaucoup plus dénudée. Moi j'aime beaucoup, en tout cas ça m'influence beaucoup de cette musique-là où. Moi, je trouve ça, Sylvana Estrada, par exemple, je trouve que c'est une artiste hyper moderne et c'est très, très aussi vieux et c'est intemporel. C'est
intemporel et ça travaille beaucoup le féminisme, mais aussi la sensibilisation.
Avec nos thèmes à nous d'aujourd'hui,
oui,
quoi.
C'est ça.
Et voilà. Moi, c'est pour le moment, en tout cas, c'est les outils que j'ai. Des fois aussi, on est limité aussi par ses connaissances. Moi, je sais qu'on sait jouer de la musique avec des instruments. Et par exemple, je maîtrise beaucoup moins la composition par ordinateur. Donc... Ça, c'est aussi ce qu'on est dans ses compétences, quoi. Voilà, ouais. Moi, j'écoute beaucoup de musique électro aussi, et beaucoup plus de hip-hop, mais je ne sais pas la faire, quoi. Donc, moi, j'ai fait la musique que je sais faire. Voilà. Humblement, comme je peux, quoi.
Ouais, alors, on revient un peu en arrière, parce que tu as parlé de Manu Chao.
Ouais.
Est-ce que tu nous racontes un peu
Manu Chao, c'était un peu fou. Parce qu'il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'album, il n'y avait rien. Et on m'a contacté un jour parce qu'il venait à Liège. Et c'est son booker ici de Belgique, quoi, qui connaissait, qui suivait mon parcours depuis longtemps. Il savait que j'étais chanteuse et que je composais. Il savait que j'avais des chansons. Et je pense qu'il voilà, il croyait en moi. Et il m'a dit, c'est un set plus acoustique de Manu Chao. C'est plus... Parce que moi, je t'avoue que quand on m'a contacté, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, je vais foutre Manu Chao, pour moi, ça sonnait... Mano Negra, La Fiesta, Radio Bemba.
Oui, mais il fait quand même beaucoup de morceaux un peu acoustiques et je le fais passer beaucoup.
Ouais, mais j'ai grandi avec Manu Chao.
Oui,
parce que moi depuis que je suis toute petite, mes parents ils étaient fans de Mano Negra. Puis moi j'ai écouté adolescente, j'ai saigné l'album Radio Bemba. Mais oui. saigné, j'ai été le voir au concert Esperanza, j'ai été le voir partout, à Liège il est venu. Mais je trouvais que mon répertoire à moi était à l'opposé, même si on est en espagnol. Je me disais, je vais plomber l'ambiance. Et en fait, finalement, voilà, ça s'est fait. Et j'ai dû envoyer des chansons, des maquettes, parce que j'avais que ça. Et parce qu'il fallait qu'ils valident quand même. Et donc, moi, j'étais encore en pleine doute.
C'était quand, ça?
C'était il n'y a même pas un an. C'est
ouais,
ça que
c'était en mai, le 10 mai, je
ouais.
pense.
Alors, moi, 15-10 mai ouais. 2023. Et moi, j'avais des chansons, quoi, je veux dire. Donc, c'est ça que aussi je me dis, j'ai jamais lâché la musique. C'est juste que j'arrivais pas à trouver. Je dis souvent, d'ailleurs, c'est la Raïs, ce morceau-là, qui est né après. Non, il est né avant, pardon.
Ouais, bien avant.
On l'a joué, mais c'est ce morceau-là qui a un peu fait le déclic où je me suis dit, mais en fait, j'arrivais pas à trouver une cohérence, un truc, voilà. Et il y a eu un morceau déclic et puis Manu Chao où je me suis dit, j'ai pas eu le choix de me mouiller, mais j'étais prête, quoi. Ouais. Parce que quand on m'a dit, tu veux le faire, mais j'avais plein de chansons à faire, donc c'est juste que je savais pas encore comment m'introduire dans. Au début, c'est toujours difficile, comment on se présente, quoi.
Ouais, c'est
ça. Je commence par quoi ? Je fais quoi ? Je fais un album, j'ai pas d'argent. Voilà, c'est toujours un peu. Donc, ça, c'était un beau coup de boost.
Bah maintenant, on a fait le premier pas. t'es déjà là avec ton beau album. On va parler un peu après sur les designs de ton album.
Ouais, ouais.
Mais est-ce qu'il y a une chanson que tu veux nous présenter maintenant ?
Bah, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu veux une chanson en particulier ?
Oui. Ouais. Et on avait
parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, on avait parlé de Tela Marinera.
Ouais.
C'est une très belle chanson, je pense. Une chanson pour las abuelas.
Exact.
Et pour écouter, pour danser tout ensemble aussi.
On y va alors.
Oui, ouais, alors on va se lancer avec Tela Marinera.
Avec le temps qu'il prenne sa guitare.
Hop là. Me voilà.
El cuchillo en la botella, Bartolo abrió la ventana, se fue el mar. Hay flores de calabaza, pimiento seco, churrito aplastado. Mile una veces cantaremos la misma canción, mile una veces pa' que te alegre el corazón. Y es que tela marinera, una lágrima cayó en la arena, clavelito, no tengas pena, caminaremos a las tres palmeras, comeremos mandarinas hacia el mar. Una rosa bugambilla en tu melena. Mile unas veces cantaremos la misma canción, mile unas veces pa' que te alegre el corazón. Y es que tela marinera, una lágrima cayó en la arena, clavelito, no tengas pena, caminaremos las tres palmeras, comeremos mandarinas hacia el mar. Una rosa bugambilla en tu melena. Una lágrima cayó en la arena, cayó en la arena, cayó en la arena. Una lágrima cayó en la arena.
Au nom d'Andou, T'es la marinera. C'est une belle chanson que tu as fait pour ta grand-mère. Et alors, Nena, je pense interpréter que la chanson est arrivée après que ta grand-mère est partie.
Tout à fait, oui. Ça fait plus de 15 ans qu'elle nous a quittés, quoi. Oui. Donc j'ai écrit ça il y a 2 ans, je pense. Oui. Ou même pas, ouais. Et j'étais en Espagne, justement, quand j'ai écrit ça. Et c'était je sais pas comment quelqu'un qui parle espagnol peut comprendre cette chanson, parce qu'elle est truffée de, oui, d'anecdotes personnelles. Donc,
ouais, elle m'a demandé justement pour les paroles, et je lui disais, franchement, je ne comprends pas pourquoi elle dirait ça, mais je suppose que Federico, c'est quelqu'un de ta famille.
Non. Non, en fait, si je dis, c'est une chanson un peu surréaliste, parce que c'est un collage, et il n'y a que moi qui peux vraiment la comprendre, faire le puzzle, parce que c'est que des souvenirs personnels.
En plus, tu viens d'Extremadura, et tu nous parles de la plage, de regarder par la fenêtre, mais pas de la plage.
Oui, tu ne peux pas comprendre. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, y a chaque phrase, il y a vraiment une symbolique derrière. Toutes les phrases de Tella Marinera, il y a vraiment un souvenir. Et je trouvais ça chouette aussi d'écrire une chanson qui ne soit pas forcément captable. Moi, j'aime bien aussi, en tant qu'auditrice, écouter des chansons où je me dis, je ne comprends pas tout, mais ça me plaît de ne pas tout comprendre. Il y a une part de mystère. Et c'est vrai qu'ici, je me dis, s'il n'y a pas un dictionnaire à côté de
la... mais ça devrait être un dictionnaire Nena, parce que
ça...
sinon, on ne comprendrait pas. Moi, je comprends les paroles, mais je ne comprends pas ce qu'il y a derrière.
Je peux t'expliquer quelques trucs. Parce que c'est... Donc, par exemple, Federico, c'est Federico García Lorca, qui est le poète. Ouais. Et qui était une figure très importante à la maison, parce que mes grands-parents communistes, quand ils sont arrivés en Belgique, ils ont été très actifs dans la lutte communiste en exil. Et donc c'était les clubs Federico García Lorca, qui était poète assassiné pendant la dictature franquiste. Donc ça, c'est une rêve personnelle. Una lágrima cayó en la arena, c'est une rêve à una canción de, une chanson de Pere, qui est una rumba catalana, qu'on me chantait tout le temps parce que je pleurais tout le temps. Et c'est une chanson très joyeuse en Espagne. C'est Una lágrima cayó en la arena, ay en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. Et moi, à chaque fois, je pleurais parce que j'étais una llorona. Je pleurais tout le temps. Et eux, ils me la chantaient. Donc, ça, c'est des refs aussi, même à des artistes. Churrito aplastado, c'était les churros que ma grand-mère nous faisait. Et avec le reste de pâte de la fin de la machine. En fait, elle les aplatissait parce qu'elle ne savait plus les passer dans la machine. Et alors, elle les faisait frire. Et je sais que dans la famille, moi et mon cousin, parce que je n'ai pas de frère et sœur, mais mon cousin, c'était comme mon frère, on se battait pour avoir ces aplatis. On les appelait les aplatis, les aplastao. Donc, voilà, ça c'est... Mais il y en a 20, hein, comme ça, des rêves dans cette chanson.
Il y a une expression que je ne comprends pas.
Ouais.
C'est « una rosa bougainvillea en tu melena ».
Bougainvillea, c'est la rosa, c'est une fleur de là-bas. C'est les bougainvilliers.
Okay.
C'est très fleuri et ça ne pousse pas ici.
D'accord.
Et dans la maison où on habite. Et je parle de mère aussi parce qu'en fait, on vient d'Extrémadure. Ils ont émigré et quand on est retourné, ils sont retournés là-bas quand ils ont été pensionnés. Ils ont acheté sur la Costa Blanca, du coup, du côté de Valencia, Alicante. Et donc, moi petite, mes souvenirs, ce n'est pas l'Extrémadure. La culture, elle est très extrémaine parce que c'est quand même différent. J'ai été éduquée par des gens de là. Mais mes souvenirs, ils sont sur la mer, quoi. Donc voilà, il faut faire le puzzle, quoi. Et voilà, si on ne me connaît pas, et même les gens qui me connaissent ne peuvent pas trop comprendre cette chanson.
C'est sur la côte catalane aussi.
En dessous.
Okay.
C'est en dessous, mais c'est à la mer, quoi. Du coup, moi, depuis que je suis petite, je vais là. Et en Extrémadure, j'ai été 2 fois dans ma vie. Hein. Mais par contre, je le vois bien quand je rencontre d'autres Espagnols, que je suis d'Extrémadure. Parce que la culture, ça se transmet, quoi.
Ouais.
On n'est pas de Valence, quoi.
Oui, ouais, je
on
vois.
On n'est pas de Valence.
Mais bon, on parle alors de ce magnifique album.
Ouais.
Il me semble que c'est toi qui as fait le design.
Ouais, c'est ça.
C'est toi qui as choisi. Alors, je vais décrire un peu parce que les gens nous écoutent. C'est un album tout rouge, comme l'Espagne. Hein.
Ouais.
C'est vraiment très espagnol. Avec beaucoup d'assiettes espagnoles.
Total.
En Espagne, on mange beaucoup de tout, mais... Ouais. C'est vraiment très typique avec les petites assiettes en argile.
Circuit,
comme ça.
Des gambas.
Des gambas, des... c'est...
Boquerones.
Les
anchois.
Oui.
Et vinagre.
Oui. Ça c'est d'Extremadura, c'est les vins chauds, non?
Ça, c'est les petits verres à shot. pour boire l'aguardiente ou tu vois, comme en Colombie.
Oui, c'est
ça. Chupito.
Ouais, chupito, c'est à la belge et en Colombie, on joue du tejo avec.
Oui, je vois, oui, du tejo. Et je vois beaucoup de des olives, une tortilla, bon voilà.
Chorizos.
Beaucoup de nourriture.
Ouais.
C'est un album qui donne vraiment, vraiment super faim.
Ouais, c'est ce que tout le monde me dit.
Oui, là, j'ai faim aussi.
J'ai dit, il faut prendre l'apéro en écoutant.
Et tes photos sont très belles, tes photos. C'est qui les a fait?
Ça, c'est Sylvain Regard. C'est un collaborateur à moi qui suit depuis le début. Et je travaille, surtout l'aspect visuel, je travaille exclusivement qu'avec lui. C'est ça qui est assez chouette, c'est que c'est lui qui a réalisé le clip Canto a la Luna avec moi. Mais on travaille vraiment sur la direction artistique. C'est plutôt moi qui gère la direction artistique et lui il comprend tout et il arrive à le mettre en forme, on va dire techniquement, mes idées. Et puis il a une patte très artistique aussi et très poétique et donc il fait mes photos, il fait mon clip. En l'occurrence, pour le moment, on est en train de tourner un documentaire aussi, donc c'est lui, il me suit et c'est devenu un ami, un frère.
Non, mais il n'est pas ici.
Non, il n'est pas ici aujourd'hui.
Il est bruxellois.
Il est de Bruxelles et
voilà, la prochaine fois, on l'invite pour qu'on soit dans ton documentaire aussi. Bon, alors, toi, tu as produit toute la partie visuelle.
Ouais.
Et derrière, y a ton équipe qui a fait toute la partie musicale et toute la production musicale, c'est toi aussi qui a fait.
Donc on va dire que la composition, c'est moi, une grosse partie. Donc moi, j'arrive avec des chansons guitare-voix qui sont déjà bien finies en termes de structure, etc. Puis dans un deuxième temps, on travaille avec justement Momo, qui est le co-compositeur, parce que du coup, lui, il amène les chansons, vu qu'il est guitariste, vers des couleurs encore différentes que moi, je ne sais pas faire à la guitare. Mais en général, la chanson, entre ce que moi, je fais... C'est musicalement quoi, vraiment que ça change, quoi. Mais la structure,
l'essence du morceau est là depuis le départ. Quoi. Voilà. C'est elle qui vient avec ses compositions, qui vraiment apporte son univers.
Ouais.
Moi, après, je remets un peu en forme avec des... On parle un peu d'arrangement, instrumentation, ouais. Ce genre de choses-là. À part quelques morceaux, vraiment, j'ai apporté une partie en plus.
En général, j'ai déjà une idée très claire de ce que je veux, même. Ou alors, je vais lui dire, je veux ça, ça, ça.
Oui, si on prend par exemple Canto a la Luna, où Nena composait clairement tout le morceau, moi j'ai juste rajouté un bridge là-dedans, la partie instrumentale avec l'envolée de trompette. Mais voilà, le morceau est déjà là avec Nena. Donc,
et puis
je ne fais qu'embellir un peu ce qu'elle a déjà fait.
Ouais, et ça embellit vachement.
J'essaie d'embellir.
À fond. Et c'est... Même si la chanson, c'est incroyable parce que la chanson devient au contact des autres musiciens.
Ouais.
Parce que du coup, là, Antoine Dawan qui fait les trompettes. Nicolas Pumain qui fait la contrebasse, ici Frédéric Malempré aux percussions. C'est clair que c'est encore autre chose. Quand moi j'ai écouté mes chansons finies comme ça, mais c'est eux qui font leur partie en consultation avec moi qui est toujours la direction artistique. Moi je travaille en tout cas en leur faisant. Moi je suis pas trompettiste, je suis pas contrebassiste, je sais juste comment je veux que le morceau y sonne. Chacun compose un peu après sa partie sur base de ma structure à moi, quoi.
Alors, il y a une espèce de rituel de composition où tu amènes une chanson et tu le dis, j'ai cette chanson dans la tête, on fait quoi?
Non, ça se passe pas comme ça. C'est plutôt moi qui suis manageuse, productrice, tout. Et donc, quand j'arrive voir mes musiciens, tout est déjà presque fini, quoi.
Ah.
Ça coûte cher, des musiciens. Donc, moi, quand j'arrive, il faut quelque chose de sérieux et quelque chose de très concret. Et qu'eux, ils n'aient plus qu'à poser dessus, presque. Hein. Et ça, c'est plutôt ce que moi et moi, on fait.
Ça fait partie du binôme qu'on a tous les deux. Du coup, c'est un peu... À part, évidemment, on est toujours ouvert évidemment à laisser les autres musiciens qui jouent avec nous à proposer des choses, évidemment, à tester des choses. On est là pour ça parce que ça nous plaît. En plus, on a des chouettes gens avec qui on travaille. Mais du coup, clairement, on essaie de prémâcher le travail au maximum, quoi. Tout ce qui peut être fait à l'avance, savoir un peu dans quel univers on va amener le morceau, etc. Ça doit être déjà prêt avant. Comme ça, on gagne du temps et forcément de l'argent aussi.
Donc c'est la création, c'est juste le privilège justement en plus d'avoir d'être en couple.
Puis c'est aussi quand tu travailles avec des musiciens professionnels, c'est toujours un peu délicat de lui demander en plus de limite co-composer les morceaux, est-ce qu'il doit composer normalement ses parties et tout ça, alors qu'en fait c'est pas lui qui sera après compositeur sur le morceau. Enfin, il faut être un peu réglo aussi de ce côté-là, donc c'est toujours un peu.
Je sais pas comment les autres travaillent, mais en tout cas c'est la composition. Enfin, dès que tu commences à t'entourer d'une équipe, il faut, je pense, c'est ça aussi qui change la donne, avoir quelque chose de très concret en tant qu'artiste qui lead un projet. Si t'arrives pas, c'est ça aussi que ça. Il m'a fallu du temps. Parce que savoir s'entourer d'une équipe, c'est aussi quelque chose, quoi. C'est pas en un claquement de doigts que les gens, t'arrives à les convaincre viens jouer pour moi, quoi.
Oui.
Donc, plus t'arrives avec quelque chose, avec une patte, avec une identité, et tu sais où tu veux aller, plus c'est facile d'embarquer des professionnels avec toi qui, finalement, se disent, bah, moi, j'aime bien le projet, c'est sûr, elle sait ce qu'elle veut, et donc, moi, bah, je vais juste apporter ma touche. Bon, c'est de l'investissement de leur part aussi, hein, je dis pas, mais c'est moindre pour eux. Eux, ils ont chacun, d'ailleurs, des projets où ils sont leaders de leur côté. Et on pourrait pas avoir 10 projets où on est leader, par exemple. Moi, je peux en avoir qu'un, quoi. C'est pas possible de cumuler des projets où on est à la direction, quoi. Voilà. Et c'est plus facile, en tout cas, de s'entourer quand quelque chose pas solide, parce que parfois t'as pas l'argent, etc. Mais en tout cas, dans ta tête, s'ils sentent que t'as...
Ouais, c'est rassurant pour eux aussi. Hein. Ouais. Genre moi, je suis musicien et je joue dans beaucoup de projets. Et forcément, c'est rassurant d'être dans des projets où tu sais que le chanteur ou la personne qui lead, elle lead vraiment, et que tu n'as plus qu'à faire ton rôle de musicien et pas de structurer le projet en tant que tel, quoi. Donc c'est, ouais, c'est rassurant quand t'as plusieurs projets aussi et tu sais que tu peux lui faire confiance et décoller avec, quoi.
Ouais.
C'est bien ça. Et dans ta release party, alors le 23 mars, j'ai entendu des chansons qui ne sont pas dans ton album.
Beaucoup même.
Beaucoup, oui.
Beaucoup. Ben, ici j'ai la chance d'avoir pu produire, ça coûte de l'argent de faire tout ça, le studio, etc. Donc c'est moi la productrice, quoi, du coup. La musique m'appartient à 100%, parce que si c'était quelqu'un qui payait pour moi, ben, une partie de ma musique ne m'appartiendrait plus. Ici, en l'occurrence, ben, ça m'appartient, parce que c'est moi qui l'ai produit. Mais donc, du coup, on a produit un EP, donc 5 morceaux, 5 titres. C'est chaque fois que tu fais plus de titres, ben, c'est beaucoup plus de temps passé en studio, c'est beaucoup plus... donc voilà. Puis aussi, je ne trouvais pas qu'il y avait de l'intérêt à produire un album directement, mais par contre, je voulais tourner en live avec ce projet. J'avais beaucoup de chansons, donc on va pas tourner avec 5 chansons. Donc on s'est dit, on va, pour promouvoir cet album, qui est un chouette objet et quand même une chouette réalisation, il va falloir faire un live de plus de 5 morceaux, quoi.
Ouais.
Et donc pour ça, j'ai introduit un projet, un appel à projet, et je suis soutenue par la Fédération de Bruxelles, qui, elle, a mis un peu d'argent pour aussi produire ce live, parce que ça aussi, ça coûte de l'argent.
Ouais.
On en revient toujours à ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup un frein quand on veut faire de la musique au début et qu'on sait pas par où commencer. Il faut un peu se mouiller financièrement et essayer d'aller chercher des aides. Et là, du coup, on a fait des résidences. Et moi, j'ai... Bah, du coup, pareil, on a travaillé de la même manière. On a travaillé tout en amont et on arrive en résidence. Et on a, du coup, 14 chansons qu'on joue en live. Donc, beaucoup plus que sur l'EP, quoi. Et on aimerait bien, du coup, avec toutes les chansons qu'on a, aller faire vite un deuxième, quoi.
Est-ce qu'on peut écouter une de ces nouvelles chansons?
Bah oui, totalement. Il nous reste combien de temps?
Alors, il nous reste,
c'est la dernière chanson.
On va le négocier.
Il nous reste un quart d'heure, normalement. qu'on pique à Bon Boss Life. Je ne sais pas si c'est d'accord ou pas, on verra.
Je vais parler avec
on va faire une dernière,
pendant qu'elle te fait ta chanson. Et si on continue, okay, je te dis. Mais ça serait potentiellement la dernière, sinon okay, on pourra faire une dernière après.
Bah okay. Alors, on va faire soit, on pensait soit Valdecaballeros, qui est un...
Valdecaballeros.
Une exclue.
Oui, une exclue qui est le village où sont nés mes grands-parents, justement.
Ouais.
Et ça, c'est plutôt un hommage à mon grand-père. On aime bien faire des hommages. Dans
bien. Alors, una canción para el abuelo.
Para Colombia. A ver, sí. Canción para el abuelo, pero lo van a entender, seguro.
Seguro.
Es un retrato de un día
de
trabajo bajo el sol, quemando, en Extremadura. Pero en los años antes de años 60. Para el abuelo.
Bajo un sol quemando tengo como compañero una bici y mi sudor. Hoy se cumpla mi labor, hoy se cumpla mi labor. Sol quemando tengo como compañero mi mochila y mi canto, diario del trabajador, diario del trabajador. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuánta travesía hacia los cerros, 30 horas entre los pinos que me llevan a Valdecaballeros. Caballeros. un sol quemando entre olivos y campos. Yo llevo mi mortero, unos ajo y pepinos, unos ajo y pepinos. Bajo un sol quemando, el patrón no me hace caso. Tendré que contestar, hoy nos tiene que pagar, hoy nos tiene que pagar. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuánta travesía hacia los cerros, 30 horas entre los pinos que me llevan a Valdecaballeros. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuánta travesía hacia los cerros, 30 horas entre los pinos que me llevan a Valdecaballeros. El comunista, yo ni sé de qué me hablan. Solo tengo mi protesta para cambiar la faena, para cambiar la faena, para cambiar la faena.
Un peu improvisé parce que du coup on fait jamais ça en duo, mais
Valdecaballeros avec la nena et on a aussi du public parce que Bonovos Live ici, coucou. Merci pour nous avoir laissé jouer un peu de temps ici parce que vous avez entendu, il y avait un problème technique et on a commencé 15 minutes en retard. Du coup, on fera encore quelques petites questions, une dernière chanson et ça sera
si
bon.
Si ça va pour okay. Vous, ça va pour nous.
Hein?
Avec grand plaisir, on adore venir à 48 FM.
tu vas rester pour leur émission après.
S'il y a des bières et des tapas.
Ah, il fallait penser à ça, tu vois.
On peut pas manger à la radio.
Mais bon, alors, Nena, l'album, bah, ton premier EP est sorti. Et qu'est-ce qu'il y a en liste maintenant?
Maintenant, tourner. Le live, quoi. Là, maintenant, c'est l'enjeu pour moi. C'était vraiment un grand travail que j'ai découvert aussi, parce que du coup, comme je t'ai dit, produire ce truc, moi, à chaque étape, je découvrais le travail de productrice, de manager, puisque j'avais pas une équipe. Donc tout ça, c'est moi, c'est toutes les casquettes, attachée de presse. Même si j'ai travaillé avec un attaché de presse aussi un petit peu, j'ai beaucoup, beaucoup fait moi toute seule. Mais tout ça, c'était dans l'objectif de faire une carte de visite, une première, pour pouvoir faire du live. Parce qu'à l'heure actuelle, à notre niveau, en vivre, c'est pas des streams qu'on va en vivre, c'est pas des ventes des CD. C'est la seule chose qui peut nous permettre à nous d'en vivre un petit peu, c'est le live, quoi. Donc, ici, on part, on a du live qui arrive, d'ailleurs, si on peut faire la promo.
Bien sûr.
On a, en tout cas, à Liège, on a une grande qui arrive, c'est Nuit Blanche contre Liste Noire, le 7 juin. Donc, c'est en pleine période d'élection et c'est une journée antifa, quoi. Donc, il y aura Féfé aussi et David Walters.
Sur l'esplanade du B3.
Ouais. Donc, ce sera une grosse scène, ça. Le 7 juin, avec le soleil qui sera là, j'espère.
J'espère.
Saldra le sol.
Ouais. On va l'amener avec la musique.
Il y a ça. Il y a un festival d'art de Oui en août. Et puis, il y a aussi un UPEN. On va jouer le 25 mai au UPEN Musique Marathon Festival.
Ouais, au Café Le Parc aussi.
Café Le Parc, oui.
En avril.
Non, mais
c'est-à-dire
le 17 mai. Enfin, voilà, il y a plein de dates, mais tout ça, c'est disponible sur mes réseaux.
Oui.
Donc, si vous voulez venir voir, on joue des fois en trio, en duo, en full band.
Okay.
Ça dépend un peu les formules, quoi.
Et festival?
Festival, on est un peu tard, en fait. On a fait la release le 23 mars. On a un nouveau projet. C'est pas facile de faire sa place. Et les programmations des festivals, bon, nous, on peut pas être dans les grosses line-up. Donc, de toute façon, on sait qu'il y a toujours un peu de place pour les artistes locaux en fin d'année, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas...
À confirmer, on va confirmer ça dans une semaine ou deux.
Ouais, maintenant, le live était produit, fini de produire il y a 2 semaines.
Ouais.
Donc j'aurais pas pu, de toute façon, partir à l'attaque de la promo, de la vente du spectacle. Toi, quand t'es venu le 23, c'était la première fois qu'on expérimentait cette formule-là.
Ouais, c'est la première fois qu'on faisait un live d'une heure, de plus de 30 minutes en tout cas, comme on l'a fait auparavant.
Oui, c'était un show d'une heure et demie, quoi, que même dans les concerts...
Ouais.
Un festival, c'est moins que ça, quoi. Là, c'était vraiment un privilège.
On était à côté de ta tante.
Ah, sûrement, ouais. Qui avait un t-shirt. Agnena.
Ou ta grande-tante.
Ma tante, Mitita.
Oui, Mitita. Bah, elle était assise, elle avait sa place.
Assise, non, je crois Ma famille ne s'assied pas.
Si, il y avait une vieille dame.
C'est la famille de ta mère ou
c'est
quoi?
C'est la famille de ta maman.
Ah oui, c'est ça, oui. Ma grand-tante alors. Oui,
ouais. on était là à côté d'elle, elle était en larmes de te voir jouer, c'était super beau.
Bah, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il y avait pas mal d'Espagnols dans la salle, certains qui me connaissaient, d'autres qui ne me connaissaient pas. Et ça m'a beaucoup touchée, même des plus âgés, quoi, et des plus jeunes, les deux. Mais les plus âgés, ce qui m'a touchée, c'est qu'ils m'ont dit tu m'as ramenée là-bas, quoi. Ouais. Avec tes textes, avec ta musique. Ça m'a beaucoup touchée.
Moi aussi, entre eux, hein, parce que t'es espagnole, je suis colombienne. C'est deux continents différents, mais la culture est assez proche.
Moi, je trouve, ouais.
Alors, même si
je me sens bien chez toi, d'ailleurs.
Même si on essaye de cacher ce côté espagnol parfois, il y a beaucoup de gens anti-espagnols.
Tout à fait, ouais. Et il y a à raison ou à tort, mais...
Oui. Voilà. Oui, à voir. Ouais. Mais on ne connaît pas tout ce qui s'est passé. C'est les gagnants qui racontent l'histoire de toute façon. Et ce que je sais, c'est que je suis là parce que aussi je suis espagnole.
Ben, on est résultat de plein de catastrophes au niveau de l'histoire. Je veux dire, le colonialisme, l'Espagne a fait des catastrophes. Mais nous, clairement, nous, on n'est pas responsables de ça.
Exactement.
Et nos cultures, elles sont clairement, évidemment, croisées. Aussi bien l'Espagne chez vous... que moi, en grandissant, l'Amérique latine, c'est pas possible de pas me connecter à l'Amérique latine en tant que
espagnole. Alors, est-ce que tu trouves que la musique, c'est un symbole d'identité culturelle?
Oui, à fond, clairement, oui.
Et je pense que c'est non seulement identité culturelle, c'est tout. Parce qu'à partir des paroles, des rythmes, des instruments, on peut faire changer... beaucoup de choses. Et là, on parle de n'importe quel type de musique. En Amérique latine, on joue tout le type de musique.
Ouais.
Et c'est très influencé par les Espagnols, bien sûr. Mais puis, quand la salsa, le reggaeton et le reggae ont commencé à faire des choses de leur côté, là, tu dis, il y a des nouvelles choses qui commencent à sortir. Et là, c'est une nouvelle génération.
Ah ben, en fait, moi, je lutte contre le terme world music. Parce que moi qui suis une fan, j'écoute 95% de musique en langue espagnole, mais j'écoute pas que du reggaeton et de la salsa. Ouais,
c'est ça.
J'écoute du rock, j'écoute de l'indie folk, de la folk, du hip-hop, de la canción latina, je veux dire, tous les styles, ils existent en langue espagnole. Donc, évidemment, et marqueur culturel... J'irais même au-delà de ça, un marqueur même individuel. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça ou pas, mais quand on raconte Tela Marinera, c'est vraiment un moyen d'exprimer des sentiments très personnels et qui vont vers l'universel de toute façon. Parce que, comme tu as dit, tu ne comprends pas Tela Marinera, mais finalement, ça peut quand même... si un mot ou l'autre, ça peut te parler, pour moi, et nous connecter, c'est déjà
gagné. Ça m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui te manquait beaucoup.
Voilà, t'as tout compris alors.
c'était ça qui m'a parlé le plus. Mais je trouve aussi que tu as beaucoup de Mercedes Sosa dans tes paroles. Oui, c'est très poétique, c'est très contre le système.
Ouais.
Et surtout avec la chanson Hermanas.
Ouais.
Je trouve que c'est un très beau morceau de féminisme qui ne parle pas des féminismes. Tu vois?
Oui.
Mais parce que les paroles sont un peu en mode on ne veut plus trouver des filles mortes. On veut plus, mais pas en mode on est féministe, tu vois.
Oui, ben ça c'est un peu ma patte parce qu'il y a beaucoup de révolte dans mes chansons, mais je ne veux jamais tomber dans l'écriture dans Babylone brûle, quoi. Je dis toujours cet exemple-là, très exploité dans le reggae, etc., très contestataire. Mais moi en tout cas, ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'on sorte de la révolte mais de manière plus douce.
Et c'est ça que Mercedes Sosa fait aussi mais très avec sa musique.
Ouais, bah ouais, et ça me plaît que tu dises ça, parce que c'est une grande une incroyable femme.
En plus, tu te ressembles physiquement un peu.
Ah bon?
Moi, je trouve, t'as un peu le visage. Hein.
Pourtant, elle est très typée sud-américaine.
Oui, mais on n'est pas typé.
Ah ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Combien de fois on m'a dit que j'étais marocaine, italienne.
Oui, c'est vrai, voilà. Mais moi aussi, donc voilà, c'est vrai. On est un mélange de tout, je crois.
Oui. Bon, on arrive bientôt à la fin pour laisser nos amis des Bonobos live. Et avec une dernière chanson, ça vous dit?
Qu'est-ce que tu veux jouer?
Ben, Queremos Más, si vous voulez.
Oui, Queremos Más, qui est dans ton EP.
Oui.
Vous faites le thème.
Vous faites le... Alors, du coup, vous allez devoir chanter avec nous.
Oui.
Le thème de la trompette qui n'est pas là.
D'accord.
Ça va? Mais je vais vous aider. Version plus calme.
Se oye un rumor por la esquina. Dicen que perdiste tu alegría. Y si me buscan, diles que voy navegando entre los últimos sueños de los que siguen ardiendo. Lo grabo sobre mi piel de cuero.
Eso.
En esta ciudad sin rumbo, ¿quién le tocará al primero? Si quiere verme, estaré volando hacia otro lado contra la corriente, pintando nuevos colores para despertar. ¡Ay, los corazones! Sacar a vela, prender la nave, interstellar será nuestro viaje. Sacar a vela, prender la nave, interstellar será nuestro viaje. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Dicen que te llega la esperanza. Si quiere verme, sal volando hacia otro lado contra la corriente. Pintemos juntos nuevos colores para despertar. ¡Ay, los corazones! Sacar a vela, prender la nave, interstellar será nuestro viaje. Sacar a vela, prender la nave, interstellar será nuestro viaje. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Queremos más.
Est-ce qu'on va entendre tout le studio chanter avec nous? Le thème? Il va arriver? Et ça fait. Para pa pa pa, para pa 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 pa, para pa pa pa, para pa 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 pa, para pa pa pa, para pa 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 pa, para pa pa pa, para pa 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 pa.
Caminando por nuestros sueños, últimos quedarán primeros. Caminando por nuestros sueños, últimos quedarán primeros.
Queremos más de la nena. Ça a été tout pour aujourd'hui.
Merci, hein. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
pour le coup de main vocal, pour l'accueil. Merci.
En plus, je ne sais pas chanter. Hein. Merci, merci beaucoup d'accepter mon invitation et de faire ces premières directes. Salut El Sol.
Ça a été
Je suppose, on va le demander.
Ouais, c'était super.
Espero que en Colombia nous sigan escuchando.
¿No? Viva Colombia. Volveré pronto.
Yo también.
Ya fui. Ya fui. Ouais.
Ah, bueno, luego me cuentas.
Sí.
Et bon, merci, merci, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Peu importe, 10 fois, on fait 10 fois.
Avec grand plaisir.
Et j'espère vous voir dans les festivals et dans les concerts que vous allez faire. On va noter les dates pour pouvoir venir.
Sur les réseaux.
Oui.
Rejoignez-nous.
Oui. C'était tout pour aujourd'hui. Sur Salut El Sol, la musique latine expliquée aux Liégeois. Merci Félicien, technicien.
De rien. Et vous pouvez en retrouver tous les jeudis de 20h à 23h dans Combustion Spontanée. Voilà.
Et à bientôt.
Au revoir à
tous.
Au revoir.